La pêche et soi, comédie en un acte de Georges Courteline. Deux personnages, Triel, 36 ans, et Valentine, sa femme, 25 ans. Le cabinet d'un homme de lettres. Une porte au fond, une autre à droite, à gauche en pan coupé, une fenêtre praticable. Tableaux, estampes, etc. Face au souffleur, une table chargée de papier. Au premier plan, adossé au mur de gauche, un de ces pupitres haut sur pied en usage chez les écrivains qui ont coutume de travailler debout. Triel est seul, debout devant son pupitre et comptant du bout de sa plume le nombre des lignes qu'il vient de pondre.
274, 276, 278, 280 et 285. Oh, encore 30 lignes sensationnelles, dont une vingtaine d'alinéas, une décoction de points suspensifs et une coupure à effet pour finir. Si avec cela le lecteur ne se déclare pas satisfait, il pourra s'aller coucher. Quel métier !
Il trempe sa plume dans l'encre, se dispose à écrire, soupire, s'étire, bâille longuement.
Ça t'ennuie, allons vieux, du courage. Prends ton huile de foie de morue.
Il se décide et se met à la besogne, se dictant à lui-même à haute voix.
Cependant, bien que l'antique horloge de Saint-Séverin eût depuis longtemps, dans le silence de la nuit, sonné les trois coups de 3 heures. Les trois coups de 3 heures, quel métier! Le vieillard continuait sa lente allée et venue. Un manteau de couleur foncée l'enveloppait les pieds à la tête, et des larmes échappées de ses yeux roulaient sur sa barbe de neige. Oh, ces vertigineux d'âneries! Oh, honte! Murmurait-il. Oh, cruel attentat dans mon honneur après 20 ans, garde encore la brûlure ardente. Troublant d'imbécilité! Quoi, je porterai éternellement le fardeau de mon humiliation? Quoi, jusqu'aux portes du tombeau, je sentirai le sang de ma blessure couler lentement, goutte à goutte? Ce petit ouvrage est tellement bête que rien ne l'égale en bêtise, sauf le lecteur qui s'en délecte.
Il poursuit.
La neige s'était mise à tomber. Bon, ma femme à présent. Hé, une minute, que diable!
Il va à la porte qu'il ouvre. Eh bien, en voilà du mystère. Tu fais donc de la fausse monnaie?
Non, du tout. J'avais poussé le verrou, juste étant pressé par ma commis, craignant qu'on me dérange. Entre.
Ferme vite la porte, que l'inspiration ne se sauve pas.
Oh, tu as toujours quelque chose d'aimable à me servir.
Et on n'a pas idée aussi de se donner de l'importance au point de se mettre sous clé comme une bijouterie de luxe. Tu te prends au sérieux, ma parole?
Tu es bête.
En tout cas, je n'ai pas le ridicule de me confondre avec Lord Byron. Et toc!
Mais ne sois donc pas méchante par système, Valentine. Où es-tu allé pêcher que je me confonde avec Lord Byron? Je t'explique mon travail. Oh, tu es malvenu à me le jeter au nez. Si tu crois que je le fais pour mon plaisir, tu te trompes.
Et si tu crois le faire pour le plaisir des autres, tu te trompes encore bien davantage.
Quel singulier agrément peux-tu prendre à ne me dire que des choses blessantes ou ayant l'intention de l'être? Nous verrons bien de nous deux celui qui rira le dernier. Patience, mon petit loup, patience.
Quoi?
Patience, te dis-je. L'heure est proche.
Sais-tu ce que tu me rappelles?
Un daim ?
C'est prodigieux. Tu as le don de la divination.
N'est-ce pas ? Voilà comment nous sommes dans le feuilleton à trois sous la ligne. Mais peut-être ferions-nous bien de ne pas pousser plus avant dans le domaine du marivaudage et d'aborder des choses sérieuses. Tu as à me parler ?
C'est probable. À moins que je ne sois venue exprès pour jouir de la compagnie et recueillir comme une manne bienfaisante les paroles tombées de tes lèvres.
Oh, je l'oserais l'espérer. Et alors, tu désires ?
De l'argent.
Tu n'en as donc plus ?
Belle question. Non, je n'en ai plus. Nous sommes le 1er octobre.
C'est ma foi vrai ?
Je n'en ai plus. Je n'en ai plus. Je serais bien aise, si j'en avais encore, de savoir où je l'aurais pris. Supposes-tu que je me lève la nuit pour te voler ?
Qui te parle de voler, mon Dieu ? Et quelle nouvelle querelle viens-tu me chercher là ? Je ne suppose rien du tout. Je te donne le premier de chaque mois l'argent nécessaire au ménage. Pendant que le mois court, l'argent file. Et la bourse est à sec quand le mois est à bout. C'est aussi simple que cela.
Puisqu'il en est ainsi, paye-moi ce qui me revient et conserve les belles phrases pour les mettre dans tes romans. Ils en ont plus besoin que moi. Et toc !
Patience !
Tu dis ?
L'heure est proche, plus proche même que je ne le pensais.
Sais-tu ce que tu me fais ?
Je te fais suer.
C'est décidément très curieux. Tu devrais t'établir liseur d'âme.
J'y songerai sur mes vieux jours. En attendant, nous allons régler nos petits comptes.
Il va à sa table et en fait jouer le tiroir d'où il extrait des billets de banque.
Nous disons
800, tu le sais bien.
800. 1, 2, 3.
Il y a le terme.
Je le paierai à part. 4, 5, 6. Oh, je vais te donner le reste en monnaie.
Si tu veux.
Ça te sera plus commode.
Tirant de son gousset un peu d'or et d'argent qu'il aligne au bord de la table.
Et 50, 650. Voilà l'affaire.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Ton argent.
Quel argent ?
L'argent pour le mois.
Mais il n'y a pas le compte.
Comment pas le compte ?
Non.
Si ?
Non. Est-ce que tu deviens imbécile ? De 800 francs, t'es 650.
Reste 150 francs.
Eh bien ?
Eh bien quoi ?
Donne-les-moi.
Ah non !
Et pourquoi donc ?
Parce que tu me les dois.
Moi ?
Oui, toi.
Qu'est-ce que tu me chantes ? Tu ne m'as pas prêté d'argent. D'ailleurs, je n'ai pas l'habitude de te carotter des avances. Je suis bonne ménagère, peut-être. J'ai de l'économie et de l'ordre, et tu as eu le temps de t'en apercevoir depuis 5 ans que nous sommes mariés.
Tu t'écartes de la question. Il ne s'agit pas de tes rares vertus, mais bien de tes imperfections, lesquelles, hélas, sont sans nombre. Tu te moques de moi. Et tes 150 francs d'amende ?
Décidément, je parle à un fou. Quels 150 francs d'amende ?
Ben, les 150 francs d'amende que j'ai eu le regret de t'infliger en punition de tes écarts de langage, impertinences diverses, rébellions en tout genre, etc., etc.
Mutisme ahuri de Valentine.
Ah, tu ne comprends pas.
Pas une syllabe.
Je vais te lire le détail, ça t'ouvrira les idées.
Il tire de sa poche un petit calepin qu'il ouvre. Et il en commence la lecture.
Du 1er septembre, pour avoir tranché une question sans en connaître le premier mot, puis convaincu de son erreur s'y être cramponné de parti pris avec une insigne mauvaise foi, afin d'avoir raison quand même, et d'exaspérer le sieur Triel, homme modéré, patient et doux, 3,95 francs.
Hein ? Quoi ? Mais qu'est-ce que c'est ?
Du 2. pour avoir, le sieur Triel ayant exprimé le désir de dîner un quart d'heure plus tôt, fait servir un quart d'heure plus tard et répondu au dit Triel qui se plaignait dans acrimonie. « Si tu n'es pas content, va-t'en dîner ailleurs. 6 francs 70. »«
Oh, ça !»«
Du 3. Pour avoir traité le sieur Triel de crasseux et de sale grigou, parce qu'il se refusait à acheter, comme inutile et coûteuse, une lanterne à verre de couleur en imitation de fer forgé, 2 francs 50. »« Du 4. Pour avoir dit au sieur Triel, qui regrettait l'absence d'Abati dans le bouillon, « Oh, tu répètes toujours la même chose !» Ce qui n'était que trop vrai, 1 franc 45. Du 5, pour lui avoir dit « Te rappelles-tu la fois où je t'ai pardonné d'être rentré à 7 heures du matin ?» 71 francs.
Combien ?
71 francs.
Ah, c'est pour rien !
Quand on a pardonné aux gens, on ne doit pas être tout le temps à le leur corner aux oreilles. Et du reste, pardonner quoi ? Je t'ai expliqué 100 fois que j'avais manqué le dernier train.
Et mon œil, je ne te crois pas.
Oh, ce qu'il te plaira de croire. Mais si tu dois me poursuivre de ta miséricorde, me larder de ta grandeur d'âme, et me persécuter jusqu'à ce que mort s'en suive du souvenir de tes bienfaits, tu peux les garder pour toi. Je leur préfère tes rancunes. Tant qu'à faire que d'être victime, j'aime autant ne pas t'en avoir d'obligation. Et toc ! Je continue. Du 6, pour avoir été surprise en train de démantibuler la lanterne de l'antichambre, ceci dans le but de forcer le sieur Triel à s'en acheter une autre, à verre de couleur, en imitation de fer forgé, 4 francs 90. Du 7.
Ça va durer longtemps.
Quoi, le système des amendes ? Ben, tant que tu ne seras pas revenu, un plus juste sentiment des égards auxquels j'ai droit et que j'exige désormais.
Des égards ?
Oui.
C'est à mourir de rire.
Bien entendu. Voilà 5 ans que je m'ingénie à excuser ton injustice et que je me crée des devoirs tout exprès pour avoir le souci de les remplir. Aujourd'hui, je pousse la prétention jusqu'à supposer que peut-être un jour, une fois par hasard, tu as pu t'en apercevoir et en avoir été touché. C'est donc moi qui suis dans mon tort. Eh bien, ma fille, j'y suis, j'y reste. J'en ai par-dessus les épaules et tu commences à m'embêter.
Nous ne sommes pas dans une écurie. Je n'ai pas l'habitude qu'on me parle sur ce ton-là.
Tu n'auras que la peine de l'apprendre.
C'est ce que nous verrons.
C'est tout vu.
Mon cher.
Tu veux entrer dans des explications. Entrons, ça nous promènera. Voilà, je le répète. 5 années que ma bonne volonté crédite ta mauvaise grâce, et qu'obstiné à dépister ton cœur qui est là, car il y est, je pardonne chaque jour à la veille, dans l'espérance toujours déçue du lendemain. Les premiers temps de notre mariage, je tentais de la persuader, et t'exaltant, comme il convenait, les avantages de la concorde, la joie des unions introublées, je te tins des discours dictés par la douceur et par la mansuétude même. Peine perdue. Une fois que j'avais en vain 1 heure au procédé par le raisonnement, oh, la patience m'échappa. Je me levai, je te pris par le fond de tes jupes, puis t'ayant étroitement logé sous mon bras gauche, de ma dextre agitée, du geste familier aux lavandières, à l'ouvrage, je t'administrai.
Voilà une belle action d'éclat. Je te conseille de triompher. Brute, lâche, goujat.
J'userai de ta permission et triompherai selon mon droit, car cet acte d'autorité, que je n'accomplis pas en pure perte, t'inspira de saines réflexions. J'en suis quelque temps entretenir les bienfaits à l'aide de nouvelles fessées appliquées avec à propos, et toujours équitablement tu me rendras cette justice. Non, je ne suis en effet ni un lâche, ni un goujat, ni une brute, ainsi qu'il te plaît à dire. Je suis tout simplement, mon Dieu, un pauvre diable d'homme de lettres.
Sans aucune espèce de talent.
Sans aucune espèce de talent, mais qui aimerait bien cependant trouver dans son petit intérieur une paix qui peut-être à la longue lui permettrait d'en acquérir. Malheureusement, vous autres femmes, vous vous blasez tout de suite sur les meilleures choses. Je vis venir avec tristesse le moment où les corrections allaient devenir indifférentes, en attendant qu'elles te devinssent agréables. Je dus passer à un autre genre d'exercice. C'est alors que j'imaginais de me venger sur le mobilier.
C'est malin.
Très malin même, puisque le jour où d'un coup de tabouret, je fis voler en éclats le miroir de l'armoire à glace, tu restas muette d'ahurissement. De quoi, j'éprouvais une joie telle qu'en moins de 6 semaines, j'immolais sans regret à mon ardente soif de silence 2 chaises, le pot à eau, le casier à musique, la lampe, la pendule, la soupière, le buste de ton oncle Arsène, orgueil de notre humble salon, et divers autres objets de première nécessité. Le fâcheux est, ô Valentine, qui n'en soit pas du mobilier comme du phénix qui renaît de ses cendres. La perspective d'avoir en acheté d'autres me gâta vite l'âpre jouissance que je goûtais à casser ces meubles. Une fois encore, je dus chercher autre chose. Seulement quoi ? M'en aller ? Peut-être, mais où aller ? Car tout est là pour un homme dont les bourgeois répugnent au concubinage comme à la triste vie d'hôtel. Je commençais à désespérer quand le ciel me suggéra l'idée de te faire désormais, purement et simplement, payer de ta poche tes fautes. Solution heureuse, j'ose le croire, définitive en tout cas, et à laquelle je m'arrête. De 7 heures donc, tu peux en toute tranquillité, forte du serment que je te fais de ne plus me mettre en colère sous quelque prétexte que ce soit, donner libre cours aux élans de ton infernal caractère. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, tu n'auras de moi ni une chiquenaude ni le moindre rappel à l'ordre. Je mettrai cela sur la note, simplement. Tu paieras à la fin du mois. Hurle, braille, rugis, vocifère, fais du scandale, tout en sous. Trouble tant que tu voudras le repos des voisins. Tu n'as à t'occuper de rien. Tu paieras à la fin du mois. Plus de querelles, j'en ai assez. Plus de pugilat, j'en suis là. Énergiquement déterminé à savoir la paix chez soi, et ne l'ayant pu obtenir ni par les bons procédés, ni par les moyens extrêmes, je prends le parti de l'acheter avec tes propres deniers, chose qui ne me fût point arrivée si tu me l'avais donné pour rien. J'ai dit, mais je ne te retiens plus. Bonjour. Tu peux t'en retourner à tes occupations. Je suis au désespoir de te quitter si vite, mais le devoir m'appelle. L'heure me presse et mon journal n'attend pas.
Quand tu auras assez causé, tu me le diras.
J'ai assez causé.
C'est heureux, mais 150 francs.
Pas un sou.
Tu ne veux pas me les donner ?
Non.
C'est une idée fixe.
Oui.
La maison est lourde.
Je le sais.
Nous avons des charges.
Je ne dis pas.
Je te préviens qu'avec 650 francs, il me sera impossible d'y faire face.
Mais tu leur tourneras le dos.
À ton aise. Nous en serons quittes pour vivre de pain et d'eau claire.
Jamais de la vie. Oh, n'en crois rien. Tu t'arrangeras comme tu pourras. Mais si je ne trouve pas à mes repas la nourriture saine et copieuse que réclame mon bon appétit, indice de ma conscience calme, j'irai manger au café. Ah, tes frais, bien entendu. Il serait rigolo que je sois mis au pain sec à chaque fois que tu auras été insupportable ou que tu te seras fait pincer démantibulant une lanterne.
C'est ton dernier mot.
Le dernier.
Bien. Étendant le bras vers la croisée. Tu vas me donner mon argent ou je vais me jeter par la fenêtre.
Par la fenêtre ?
Par la fenêtre. Triel, tranquillement, va à la fenêtre qui l'ouvre.
Allez, saute. Allons, saute.
Valentine demeure immobile, attachant sur Triel des yeux chargés de haine. Enfin, tu serais trop content, assassin. Triel referme la fenêtre et redescend en scène. Valentine le poursuivant. Assassin, assassin, assassin. Triel à sa table, courbé sur son calepin.
Du 1er octobre. Pour avoir menacé le sieur Triel de se suicider sous ses yeux, tentant ainsi d'exploiter la tendresse de cet excellent mari, 4 francs 95.
Lâche! Lâche! Lâche!
Pour ne l'avoir pas fait, 10 sous.
Oh, je le sais, Vas, que tu cherches. Je le sais où tu veux en venir. Tu soupires après mon trépas.
Trépas. 75 centimes pour s'être servi au cours de la conversation de locutions empruntées au lexique de Nepomucène le Mercier.
Voilà trop longtemps que je souffre sans me plaindre. J'en ai assez. Je retourne dans ma famille. Elle sort en coup de vent. Triel est seul, comme si rien ne s'était passé, il est revenu à son pupitre. Là, Triel se dictant à lui-même.
Mais le vieillard, tout à sa pensée, semblait ne pas s'en être aperçu. Soudain, élevant vers le ciel un regard hautain défi, « Eh bien, cria-t-il, sois maudit, Dieu d'inclémence, Dieu d'injustice. Toi qui n'as pas écouté mes prières, demeure à jamais abhorré. Je jette ton nom en pâture à l'exécration des générations à venir. Eh, allez donc, tu en lui restes. Quel métier !» Comme il achevait ses épouvantables blasphèmes, et le terrassier se plaint de son sort. Un bruit de pas troubla le silence de la rue. Et le mineur élève des revendications. De blême qu'il était, le vieillard devint livide. Et le cocher se met en grève. Si c'était lui, murmura-t-il, oh, connaître enfin cet ennemi, le tenir haletant sous mon genou. Arracher à son épouvante un aveu dans un dernier râle. À ce moment, un étranger déboucha de la rue de la Harpe. Le vieillard bondit comme un tigre, mais aussitôt une étrange défaillance s'empara de tout son être. Ses jambes fléchirent sous le poids de son corps, et poussant un cri terrible, il s'évanouit. Mais non, j'ai dit 30 lignes sensationnelles. « Oh, sensationnel, je suis tranquille. Reste à savoir si elles sont 30. Comptons. »
Il additionne du bout de sa plume. Réapparition de Valentine, vêtue d'un manteau de voyage et tenant une valise à la main. « Eh bien, adieu. »«
Ah, c'est toi. Tu t'en vas ? Eh bien, adieu. »«
Tu n'as rien à me dire ? » ?»«
Non, pourquoi ? » ?»«
Je ne sais pas. » Je pensais que peut-être...
Tu te trompais.
Je te fais mes excuses.
Il n'y a pas de quoi.
En somme, on peut se quitter faute de pouvoir s'entendre et conserver pourtant de l'estime l'un pour l'autre.
Bon, c'est évident.
N'est-ce pas?
Sans doute.
Alors, c'est bien entendu.
Quoi?
Tu n'as rien à me dire.
Rien du tout.
Eh bien, adieu.
Eh bien, adieu.
Triel se remet à la besogne. C'est égal, on m'aurait rudement étonné si on était venu me dire hier que tu me flanquerais à la porte aujourd'hui.
Je ne te flanque pas à la porte.
C'est le chat. Qu'est-ce que tu fais alors?
Je ne te retiens pas, c'est tout.
Mais...
Tu veux t'en aller, va-t'en. Tu ne penses pas que je vais te garder de force, m'imposer à ton aversion et te fixer au mur comme un gros papillon avec un clou dans l'estomac.
Et comme ça, Ça ne te fait rien.
Qu'est-ce qui ne me fait rien?
Que je m'en aille.
Oh, ça ne te regarde pas. De quoi te mêles-tu?
Il me semble pourtant qu'après 5 ans de ménage, tu pourrais, sans te compromettre, me quitter sur une bonne parole.
Je te souhaite de te bien porter et de trouver là où tu vas le bonheur que je n'ai pu réussir à te procurer sous mon toit. Je t'ai un peu battu, je t'en demande pardon, bien que les coups que je te donnais m'aient été certainement plus douloureux qu'à toi, et qu'au fond, je sois excusable de m'être conduit en dément les jours où tu m'as rendu fou. Cela dit, et le procès jugé de cette page d'histoire ancienne, je vis en paix avec moi-même. J'ai la conscience d'avoir été un tendre et fidèle mari, patient à ton exigence, résigné à ta dureté, esclave aux petits soins de tes moindres caprices, et travaillant 10 heures par jour à écrire des romans ineptes, mais qui me valaient la joie de te pouvoir donner un chez-toi où tu avais chaud et des robes qui te faisaient belle. J'ai tout fait pour te rendre heureuse. Tu ne t'en es pas aperçue, et n'en es pas de remords, c'est dans l'ordre. La femme ne voit jamais ce que l'on fait pour elle. Elle ne voit que ce qu'on ne fait pas.
En tout cas, tu pourrais m'embrasser.
Bon, si tu veux.
Il va à elle, l'embrasse froidement, redescend ensuite à l'avant-scène. Eh bien, adieu.
Eh bien, adieu.
Valentine lentement passe la porte, mais à peine a-t-elle disparu qu'elle rentre, dépose sa valise et revenant à son mari. Donne-les-moi mes 150 francs.
Non.
Je t'en prie.
Je ne peux pas, je t'assure.
Pourquoi?
Parce que j'ai eu la faiblesse de te pardonner trop de fois et que tu m'as fait payer trop cher. Car avec vous encore, il n'y a pas de milieu. Si vous ne passez pas par nos mains, c'est nous qui passons par les vôtres. Alors, flûte.
Valentine veut parler.
N'insiste donc pas. Je te dis que tu perds ton temps. Et puis, que fais-tu là? Tu ne t'en vas plus? À cause? Je croyais que tu souffrais trop. Allons, va, ma petite fille, sauve-toi. Retourne auprès de tes parents. Cela vaudra mieux pour nous deux.
Je t'en supplie, je t'en conjure. Donne-moi mes 150 francs. Si tu ne me les donnes pas, je vais devenir folle.
Oh, est-ce que ça te changera?
Écoute.
Oh!
Valentine se cramponnant à lui. Laisse-moi donc parler, pour les 150 francs.
Encore les 150 francs.
Tu me les retiendras un autre jour, le mois prochain, quand tu voudras. Mais pas aujourd'hui, mon Dieu, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, vois-tu, je les veux, il me les faut, j'en ai besoin.
À ce point-là, regarde-moi un petit peu, Valentine. Tu as fait une bêtise.
Mutisme éloquent de Valentine.
Naturellement. Laquelle?
Tu ne crieras pas trop fort?
Je tâcherai, va toujours.
Eh bien, j'ai un effet à payer aujourd'hui.
Tu as souscrit un effet?
Oui.
Ah, cela ne m'étonne pas de toi. Ce qui me surprend, c'est que tu aies trouvé à le passer. La loi refusant à la femme le droit de signer des billets sans l'autorisation de l'époux le tient est nul et sans valeur.
Pardon?
Comment pardon?
Sans doute. J'ai imité ta signature pour faire croire qu'il était de toi.
Et tu viens me dire cela avec ton air tranquille. Mais c'est un faux!
Qu'est-ce que ça fait? À cette réponse inattendue, faite d'ailleurs sur le ton de la plus absolue bonne foi, Triel demeure sans un mot. Il contemple longuement la jeune femme comme frappé d'admiration.
Allez donc répondre à cela. De combien le billet?
150.
Mazette, tu n'y vas pas avec le dos de la cuillère. Une acquisition peut-être?
Une acquisition, en effet.
Indispensable?
Si on veut.
Nécessaire, au moins.
Cela dépend.
Enfin, utile.
Oui et non.
Une lanterne, un verre de couleur.
En imitation de fer forgé.
Elle y est arrivée, ça y est. Mais sais-tu que des gamins reçoivent des calottes qui les ont méritées moins que toi? A-t-on idée d'un tel appétit de lanterne? Enfin, et où l'as-tu fourrée, cette œuvre d'art? Va me la chercher, que je la contemple, que j'en grise mes yeux, extasiés.
Mais Valentine ne bouge pas.
Allons, cours, vole, bondis! Non?
Valentine, en effet, de la tête, a eu un nom embarrassé.
Tu ne veux pas?
Même jeu de Valentine.
Tiens, 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 tiens. Regarde-moi encore. Tu l'as cassé.
En la portant. Ce n'est pas ma faute à moi si c'est de la camelote. Elle avait un œil, mais un œil. Tout le monde y aurait été pris. Alors qu'est-ce que tu veux? Je me suis laissée tenter. C'est donc de là que j'ai proposé au marchand, comme si j'étais venue de ta part, de nous faire crédit jusqu'à la fin du mois, moyennant un petit écrit. Alors le marchand a dit oui. Alors je lui ai remis l'écrit que j'avais préparé d'avance. Alors il m'a remis la lanterne enveloppée dans un grand papier. Et une fois à la maison, quand j'ai défait le papier pour voir la lanterne, le machin m'est resté dans une main, le chose dans l'autre. Voilà comment c'est arrivé.
Le machin t'est resté dans une main, la chose dans l'autre. Oh tiens, tu es trop bête, tu me désarmes. Les voilà, tes 150 francs. Et puis imite-la encore, ma signature. Tu verras un peu si ce coup-là, je ne te fais pas mettre en prison. Tu n'as pas honte.
Oh merci, Édouard.
Faussaire, canaille, allez bouge ton nez.
Et les autres?
Quels autres?
Les autres 150 francs.
Ah, ça par exemple, c'est le comble. Il faut encore...
Dame, ce n'est que juste. Cela, c'est pour payer ton billet.
Mon billet? Allons, file, que je ne te revoie plus, que je ne t'entende plus parler de toi.
Alors tu...
Quand la banque passera, je verrai ce que j'ai à faire.
Du coup, délivré à la fois de la crainte d'une diminution et de la terreur du gendarme, Valentine se sent touchée. Elle va à Triel, le fixe longuement dans les yeux. Puis, d'une voix où se trahit la profonde surprise d'une personne qui fait tout à coup une découverte inattendue, « C'est pourtant vrai que tu es un bon mari. »
« Il est fâcheux que tu t'en aperçoives, le jour seulement où je réussis à te faire peur. »
Elle ne répond que d'un petit mouvement de corps, tendre et câlin, un remords qui se fait caresse. Elle se glisse dans son bras, dont ensuite, de force, elle se ceinture la taille. Et elle demeure nichée, honteuse, le front reposé à l'épaule du jeune homme qu'il a laissé faire sans rien dire.
« Oya que fallait, dit le renard d'Ésope. Caïen que fallait ou que caille. Jolie tête, ma foi, mais rien dans la cervelle.
Qu'est-ce que tu dis?
Oh, rien, c'est du grec.
Comme tu es gentil quand tu veux. Elle sort lentement son argent à la main. Triel la suit du regard. Que de puérilité, mon Dieu, que d'inconscience, que de faiblesse. Elle disparaît enfin. Triel reste seule. Alors il hausse les épaules et d'une voix qu'on entend à peine, il murmure, le cœur plein de pitié, cette simple exclamation.
« Misère 317, 319, 320. Le compte y est. La suite au prochain numéro. »